Vous écoutez Radio France Internationale, il est 3h ici à Paris, 2h en temps universel.
Gali Bonin.
Au sommaire de cette édition, une réaction très attendue après les menaces de Donald Trump, celle du Kremlin. Malgré le coup de pression de Washington, Moscou ne bronche pas. En France, 3 mois après avoir été déposé, il passe enfin le test du Sénat. Le budget 2025, celui du gouvernement Barnier, a été adopté par la Chambre haute. L'actualité, c'est aussi cette annonce qui vient de tomber. Serge Atlaoui, un Français condamné à mort en 2007 en Indonésie, sera transféré en France. L'avenir est toujours sombre pour le président déchu sud-coréen. Les enquêteurs ont remis leur rapport et recommandent de le poursuivre pour abus de pouvoir et rébellion. Et en Centrafrique, la découverte d'un diamant exceptionnel, 177 carats, un des plus gros de l'histoire du pays. Mais d'abord, ce rapport de l'UNICEF qui vient de paraître, la scolarité d'un enfant sur 7 aurait été perturbée par les chocs climatiques en 2024. Selon l'agence de l'ONU, près de 250 millions d'écoliers ont manqué des jours d'école, subi des horaires décalés ou même vu leur école détruite à cause d'un événement météo extrême. La principale cause a été les chaleurs extrêmes elles aussi, surtout dans les pays asiatiques. L'UNICEF déplore un impact négligé de la crise climatique. Donald Trump a pris la parole jeudi au Forum mondial de Davos en Suisse dans un discours en visioconférence. Le président américain a appelé les industriels à venir s'installer aux États-Unis ou à se préparer à payer des droits de douane, une invitation aux airs de menace. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump affiche son intention d'augmenter les taxes à l'importation pour la Chine, l'Union européenne et surtout pour ses voisins, le Mexique et le Canada. Des menaces qui se multiplient mais qui ne font pas broncher la Russie. Le président américain a prévenu son homologue russe qu'il imposerait de nouvelles sanctions à Moscou s'il refusait de négocier la paix en Ukraine. La Russie, restée silencieuse jusqu'à maintenant, minimise les déclarations de Donald Trump et se dit prête à dialoguer avec lui. Les précisions de Daniel Valo.
En Russie comme ailleurs dans le monde, les moindres déclarations de Donald Trump sont scrutées et analysées avec beaucoup d'attention. Et c'est ce qu'a reconnu ce jeudi le porte-parole du Kremlin. Dmitri Peskov, interrogé sur les menaces de sanctions formulées par le nouveau président américain, a d'abord pris soin de rappeler que Donald Trump, durant son premier mandat, avait déjà utilisé la méthode des sanctions à l'encontre de la Russie. Rien de nouveau donc, et rien de réellement inquiétant aux yeux du porte-voix de Vladimir Poutine.
Nous observons très attentivement les déclarations et la rhétorique utilisées. Nous faisons attention à toutes les nuances et nous restons prêts au dialogue. Le président Poutine l'a dit à plusieurs reprises, un dialogue d'égal à égal et dans le respect mutuel. Nous attendons les signaux, mais nous ne les avons pas encore reçus.
Donald Trump a dit plusieurs fois qu'il était prêt à une entrevue avec le président russe, mais sans donner pour l'instant de date ou d'échéance. Après avoir promis de régler en 24 heures la guerre en Ukraine, le nouveau président américain se montre moins pressé d'agir dans ce dossier qu'il ne l'a été au Proche-Orient. En tout cas, il reste toujours aussi flou sur ses intentions, n'ayant rien annoncé de tangible à ce stade, notamment sur l'aide militaire apportée par les États-Unis aux Ukrainiens.
Daniel Valo. En France, le Sénat a voté en faveur du budget 2025. Celui déposé au Parlement il y a plus de 3 mois par le gouvernement précédent, celui de Michel Barnier. Une première étape franchie par l'équipe de François Bayrou dans ce long processus. Charlotte Urien-Tomaca.
217 votes pour et 105 contre. Le projet de loi de finances a donc été adopté en première lecture ici au Sénat. La droite dispose de la majorité à la Chambre haute et dans le détail, l'alliance droite-centriste, soutien du gouvernement, a voté pour, contrairement à la totalité de la gauche, y compris le groupe socialiste pour qui, je cite, le compte n'y était pas. Prochaine étape donc le 30 janvier avec la commission mixte paritaire réunie pour aboutir à un texte de compromis susceptible de résister à la censure de l'Assemblée nationale. Et si les 7 députés et 7 sénateurs de la commission y parviennent, le projet de budget sera ensuite soumis aux députés dans la semaine du 3 février. Ils devront effectuer un ultime vote à moins que le Premier ministre François Bayrou décide de faire usage de l'article 49.3 de la Constitution. D'ici le 30 janvier, date de cette CMP, le PS espère encore faire bouger les lignes et met la pression sur le gouvernement.
Les précisions de Charlotte Urien-Tomaka. La France qui s'apprête à signer un accord avec l'Indonésie sur le transfert de Serge Atlaoui. Le Français de 61 ans a été condamné à mort en 2007 pour trafic de drogue en Indonésie. Selon l'agence de presse Reuters, Serge Atlaoui devrait regagner la France le 5 ou 6 février. Plus d'informations et de détails à venir dans les prochains journaux de RFI. En Corée du Sud, l'enquête pour rébellion contre Yoon Suk-yeol est arrivée à son terme et elle n'augure rien de bon pour le président déchu. Les enquêteurs de l'agence anticorruption recommandent au parquet d'inculper celui qui a tenté d'imposer la loi martiale dans son pays. Le compte-rendu de Nicolas Roca.
Le destin du procureur star devenu président dans les mains des procureurs. Le parquet a 11 jours pour décider s'il lance ou non des poursuites pour abus de pouvoir et rébellion contre Yoon Suk-yeol. Ce dernier chef d'accusation est théoriquement passible de la peine de mort, mais aucune exécution n'a eu lieu en Corée du Sud depuis près de 30 ans. Le président déchu a refusé de répondre aux questions des enquêteurs du bureau anticorruption en charge de l'affaire, mais il collabore en revanche à son procès en destitution auquel il s'est rendu ce jeudi. Les juges de la Cour constitutionnelle doivent décider de rendre sa destitution définitive ou bien de le rétablir dans ses fonctions. À l'audience ce jeudi, le ministre de la Défense a défendu Yoon Suk-yeol en assurant que le président déchu l'avait empêché de déployer des milliers de soldats au Parlement et devant le siège de l'opposition. Preuve selon lui que Yoon Suk-yeol ne souhaitait pas réellement instaurer la loi martiale, mais simplement tenter un coup pour sortir de l'impasse politique.
Dans l'est de la RDC, des combats se sont poursuivis ce jeudi autour de la cité de Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Ces affrontements entre l'armée congolaise et leurs alliés face aux combattants du M23, soutenus par l'armée rwandaise, ont provoqué d'importants mouvements de population. Plusieurs camps de déplacés sont situés sur l'axe entre Sake et Goma. Les autorités congolaises appellent la population de la ville à ne pas paniquer et assurent que les FARDC contrôlent la situation. En Centrafrique, la découverte d'un des plus gros diamants de l'histoire du pays, un peu plus de 177 carats. La pierre a été extraite dans la commune de Nzako, dans le sud-est du pays, à plus de 1000 km de Bangui. Les précisions de Charlotte Cosset.
Le président Touadéra lui-même est venu voir ce joyau. Sur une photo, le chef de l'État tient l'impressionnante pierre translucide encore brute. En cours d'expertise, ce diamant d'une qualité exceptionnelle, selon le ministre des Mines, Rufin Benam Beltungu, est sans nul doute d'une très grande valeur, ajoute-t-il. Cette pierre se trouve actuellement entre les mains de l'administration publique, mais est bien la propriété du collecteur qui l'a ramené de Nzako, un propriétaire dont le nom n'a pas été révélé. Il y a quelques semaines, cette localité était encore située dans la zone rouge du processus de Kimberley et l'exportation du diamant y était interdite. La présentation de la pierre à Bangui témoigne de l'effort de transparence et de traçabilité dans le cas de ce diamant, salue Paul Cressant Beninga. Il est membre de la coalition pour la société civile du processus de Kimberley. Il espère qu'une partie des bénéfices de sa vente servira au développement de la communauté de Nzako.
Charlotte Cosset du service économie de RFI. Et nous terminons ce journal en musique avec un prodige des platines. Il s'appelle Jamie XX, de son vrai nom Jamie Smith. Le célèbre DJ londonien est en tournée mondiale avec In Waves, son deuxième album solo. Un artiste plébiscité par la critique musicale internationale José Marino.
Jamie XX est un DJ et compositeur britannique de 36 ans. Il s'est d'abord fait connaître au sein du groupe de XX. Dès son premier album en 2009, le trio devient un phénomène et ses trois mômes qui avaient alors 20 ans devenaient des stars mondiales avec ça. Aïe, aïe, aïe. Ce deuxième album solo de Jamie XX est une merveille de dance music façonnée de disco et de basses énormes, de puzzles d'échantillonnage et funky acrobatique. Jamie XX est né en 1989. Il apprenait donc à marcher lorsque la jeunesse anglaise communiait dans des rave parties. Cet album rend hommage à cette culture dance et il y apporte une belle contribution en disant « Ce magicien du mixage est devenu le chef de file d'une nouvelle génération de DJ britanniques érudites. Avec lui, la boule à facettes est un horizon. »
la musique de Jamie XX qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi.